fois avant Enoch et une fois après. Alors soudain, dit un autre auteur, il y a un aperçu de la grâce au milieu de la corruption et de la mort, qui est la conséquence du péché ici. La cloche funéraire ne cesse de sonner. Un homme a marché avec Dieu et Dieu l'a pris. La mort n'est pas la réponse finale. Pour Enoch, Dieu a outrepassé la mort. Le nuage noir de la mort survolant la race humaine, un nuage infligé par Dieu lui-même au nuage sombre qui exprime l'essence de la malédiction, est totalement déchiré par le rayonnement de la vie d'Enoch. Il y a une délivrance des effets de la malédiction de la mort. Il y a de l'espoir. Et ça m'a fait penser immédiatement au message de Pâques que nous trouvons par exemple en 1 Corinthiens 15. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes, quelle que soit la longueur de notre vie. Mais en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Car de même que la mort est venue par un homme, Adam, de même la résurrection des morts vient par un homme, Jésus-Christ. Alors, revenons à notre thème, marcher avec Dieu, que nous avons regardé, écouté dans Genèse 5. Et non qu'à marcher, et j'ajoute le mot fidèlement avec Dieu. Le mot fidèlement n'y est pas, littéralement, mais la forme du verbe indique l'idée de continuité ou de mode de vie, quelque chose d'habituel, c'est-à-dire il marchait, l'imparfait, si vous voulez, avec Dieu, toute cette longueur de 300 ans. Il y a dans la Bible trois passages qui parlent d'Enoch, que nous avons lu le premier, nous verrons les deux autres dans un instant, et nous le verrons sous trois aspects illustrés par ces passages. D'abord, et c'est évident, il a marché avec Dieu pendant 300 ans, et donc c'était une longue marche. J'ai trouvé un rapport avec le sujet, un article qui date d'il y a très longtemps, le 19 octobre 1935, c'est un article de journal où il est écrit le 19 octobre 1935 s'achève la longue marche des communistes chinois et de leur chef Mao Zedong. Après une épopée de 12 000 km à travers la Chine, les communistes se réfugient au Shaanxi et dans cette province montagneuse isolée du nord-ouest, ils échappent aux attaques du parti rival de l'armée de Chiang Kai-shek. Et c'est au cours de cette longue marche que Mao Zedong s'imposait comme le leader de la partie communiste et de tout le pays, et qui le mène à la victoire finale. Alors, ce n'est pas pour glorifier cette marche du tout, ou les communistes, mais pour montrer que la longue marche, c'est quand même été exceptionnel. Mais ça ne l'a pas être comparé avec la plus longue marche de l'histoire jamais enregistrée. Et puis, il n'est même pas mentionné dans le livre Guinness de records. Pourtant, 300 ans, c'est formidable, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, enfin même je trouve, qu'il semble avoir commencé cette vie de marche avec Dieu à la naissance de Méthusalem, parce qu'il a vécu 65 ans, il n'est pas fait de mention qu'il avait marché avec Dieu jusqu'alors. Et peut-être que la naissance de son premier-né l'a influencé. On ne peut pas être sûr parce que ce n'est pas dit, mais ça m'a fait penser à une visite que nous avons fait à un jeune couple à Genève, il y a plusieurs années de ça. L'épouse était chrétienne qui venait à l'église, le mari était un athée convaincu. Et puis, il venait de voir la naissance de son premier fils. Et puis, il m'a dit, au cours de la conversation, « En voyant la naissance de mon fils, j'ai presque cru en Dieu. » Alors peut-être que c'est à ce moment-là que ça a déclenché quelque chose dans la vie, dans le cœur d'Enoch, on ne le sait pas. Mais en tout cas, ça me suggère deux choses. D'abord, cette longue marche parle de la persévérance inébranlable. Il y a bien peu de détails, mais nous savons que cela n'a pas pu être facile, et nous le verrons dans un instant, dans un autre passage. Mais il n'a pas abandonné Lorsqu'il y a eu des difficultés, il n'a pas cédé la place au découragement, il n'a pas reculé devant l'opposition, il n'a pas compromis sa marche avec Dieu, il a persévéré. Et j'ai pensé à un autre petit récit, plus récent. Il s'agit d'un Anglais qui était ce qu'on appelle, je ne savais pas que ça existait, il était, ou il est encore, ultra-marathonien. Qui est-ce qui connaît ce terme? Eh bien, voilà, je vous apprends quelque chose, c'est déjà bien, n'est-ce pas, pour une culte. Alors, l'ultra-marathon n'est pas de, qu'est-ce que c'est, 42 kilomètres, quelque chose comme ça, je pense, la marathon olympique, mais de 100 000, ou anglaise, ou 160 kilomètres. Ça, c'est l'ultra-marathon. Vous imaginez, 160 kilomètres de course, mais ça existe. Et cet homme, Simon Whitcroft, est un ultra-marathonien. Ça, c'est déjà remarquable, c'est même exceptionnel, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais d'autant plus qu'à l'âge de 17 ans, il est devenu complètement aveugle. Et puis, il est encore ultra-marathonien, il continue à courir. C'est vrai que dans les vraies courses, il a besoin d'un guide, de quelqu'un qui l'accompagne, parce que 160 km, il ne peut pas faire tout seul. Mais pour s'entraîner, ce que je trouve absolument exceptionnel, unique dans ce sens, il a un circuit régulier de 25 km qu'il court tout seul, sans compagnon. C'est le même, c'est vrai, mais il a appris dans sa tête, pas comment, il a fait, repéré, il a appris à faire ce circuit. Mais quelquefois, c'est vrai, même avec cette connaissance intérieure et même avec cette faculté de le faire, de temps en temps, il se heurte à un obstacle qui est inattendu, quelqu'un a mis une poubelle, j'en sais rien. Mais ce qui se passe là, il n'abandonne pas, il se lève et il continue à courir. Nous ne marchons pas comme lui à l'aveugle, mais quand même, nous marchons par la foi, pas par la vue. Et nous sommes souvent confrontés par des obstacles qu'il faut surmonter. Donc, quand nous tombons quelquefois, ou que nous heurtons un obstacle, il faut faire comme Simon, se lever, persévérer. D'abord, donc, persévérance. Et puis, une communion avec le Seigneur ininterrompue. Et Amos, le prophète, a souligné cette vérité que deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Enoch a marché avec Dieu parce qu'il était son ami. Il aimait s'accompagner parce qu'il allait dans la même direction que Dieu. Il n'avait aucun désir de départir de ce chemin. Nous marchons avec Dieu quand il est dans toutes nos pensées. Non pas parce que nous pensons consciemment à lui en tout temps, en chaque instant, mais parce que c'est lui qui nous vient naturellement à l'esprit en tout ce que nous faisons. Et vous savez très bien comme moi qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut gâcher cette relation, cette marche avec le Seigneur, c'est le péché. Vous vous souvenez bien du premier péché dans le jardin d'Éden? Adam et Ève avaient l'habitude de marcher avec Dieu, dans un sens. C'est Dieu qui marchait avec eux plutôt, parce que c'est lui qui descendait dans un sens, on ne sait pas comment, sous quelle forme, jusqu'au moment où ils ont pris de ce fruit défendu. Et à partir de ce moment-là, ils étaient saisis de crainte et de honte, et se sont cachés devant Dieu. Et c'est ça qui arrive quand nous désobéissant au Seigneur, nous avons tous fait, et nous allons malheureusement probablement encore faire avant la fin de notre vie. Et nous savons à ce moment-là, nous ne perdons pas le salut, comme certains l'ont cru à certains moments, mais nous perdons certainement la joie de notre salut. Ça, c'est une vérité tout à fait biblique. Et nous voyons dans le psaume 51, où ce magnifique psaume de repentir de David après avoir commis l'adultère et le meurtre, qu'il avait perdu la joie parce qu'il prie, rends-moi la joie de mon salut. Il a été toujours sauvé, bien sûr, mais il avait perdu la joie. Donc, l'entente avec Dieu, remplacée par la honte et la peur, doit disparaître quand nous revenons au Seigneur. Mais Enoch n'a pas connu, d'après le récit, ce genre de problème, ou très peu, parce qu'il n'y a pas une seule mention d'avoir départi du chemin. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans, une longue marche. Ça, c'est le premier récit, Genèse. Nous allons voir dans un autre récit, deux autres récits, dans le Nouveau Testament, que non seulement c'était une longue marche, mais c'était certainement une marche solitaire à bien des égards. J'ai déjà dit, c'était pas facile. Il n'est jamais facile de marcher avec Dieu. Et souvent, c'est une marche solitaire en tant que croyant. Et il vous arrive déjà peut-être, où vous êtes peut-être chez vous, ou au travail, ou ailleurs, le seul croyant dans votre milieu, dans votre famille. Et vous trouvez ça difficile d'être le seul croyant. Alors, je m'appelle un ami qui, il y a quelques années, dirigeait une organisation chrétienne, un NGO, qui aidait les chrétiens derrière le rideau de fer, quand il existait ce rideau de fer. Et lors d'une de ses visites, un de ses voyages, il a rencontré un jeune étudiant chrétien dans une université à l'époque, sous un régime communiste assez féroce. Et dans ce contexte, notre ami David l'a encouragé à considérer autre chose que d'être le seul chrétien dans son milieu. Parce que c'était son problème, il disait à Dave, ben, je suis seul croyant, c'est très difficile. Alors j'ai jamais oublié ce que David lui a dit. Il dit, alors, changez d'avis, de pensée. Au lieu de te dire, je suis le seul croyant, dis-toi, je suis le premier croyant dans mon milieu. Et vous savez ce qui s'est passé avec cette pensée qui a transformé son attitude? Une année plus tard, lors d'une deuxième visite, il a trouvé ce même étudiant encouragé, joyeux, parce qu'il avait rassemblé autour de lui une douzaine d'étudiants qui étudiaient ensemble la Bible. Alors, dites-vous donc, je suis peut-être le seul, mais je suis peut-être aussi le premier croyant. Quel encouragement, n'est-ce pas? Et ça suggère quand même, chez Enoch, une fidélité sans compromis. Nous subissons les pressions hostiles de famille, d'amis, des collègues au travail, de la société en général. Et combien rester fidèle pendant si longtemps? Je pense qu'Enoch était un peu comme Daniel, plus tard, avec ses trois amis en exil, quand ils avaient été invités à la table du roi, vous vous souvenez bien du premier chapitre de Daniel, et Daniel et ses amis, enfin c'est marqué que Daniel, mais je pense que c'était vrai des quatre ensemble, ils ont résolu dans leur cœur de ne pas se rendre impurs en consommant la nourriture, le vin et le vin de la table royale. C'est là où commence, où ça continue, où ça aide la fidélité, c'est de cette résolution dans le cœur. C'est là où ça commence. Si vous êtes confronté par la difficulté, l'hostilité, si vous n'avez pas déjà pris dans votre cœur cette résolution, ça rendra encore plus difficile la résistance et ça empêchera un témoignage valable, j'en suis sûr. Je l'ai fait moi-même, je le sais que c'est pas évident. Fidélité, courage aussi. Il n'est pas facile de défendre la vérité dans un monde hostile, vivre une vie sainte, être dans le monde sans être du monde. Mais vous direz peut-être, ben oui, c'est vrai d'en parler, mais pour Enoch, c'était évidemment plus facile à cette époque-là. Non, pas du tout. Enoch a marché avec Dieu dans les circonstances tout aussi éprouvantes, peut-être même davantage, que les nôtres. Et dans un monde aussi corrompu que le nôtre. Et nous allons, je vais lire dans l'épître de Jude, un extrait d'une référence, d'une allusion à Enoch, qui se trouve dans le livre de Jude, juste avant l'Apocalypse. Et ça part de l'époque où vivait Enoch. Alors, loin de penser, loin de décrire la société comme une société, disons, religieuse, où Dieu était en général adoré ou accepté, ou était croyant, on lit ceci, verset 10. Ces gens-là, de l'époque d'Enoch insultent ceux qu'ils ne connaissent pas et ceux qu'ils savent par instinct comme des bêtes sauvages, cela même cause leur perte. C'est Enoch, septième descendant d'Adam en ligne directe, qui il y a longtemps a prophétisé à leur sujet en disant « Écoutez, le Seigneur va venir avec ses saints anges par dizaines de milliers afin d'exercer le jugement sur tous les êtres humains. Il condamna tous les pécheurs pour toutes les mauvaises actions dues à leur révolte contre Dieu et pour toutes les paroles offensantes que ces êtres sans respect ont prononcées contre lui. » Ça, c'est le milieu où vivait Enoch. Alors pensez que vous vivez dans un milieu plus difficile que cela. Enoch marchait avec Dieu au milieu des hommes les plus méchants que la race humaine ait jamais connus. Et je le dis parce que la Bible le dit. L'aboutissement, peu de temps après, ou peu d'années en relation avec la longueur de leur vie à cette époque-là, en Genèse 6, 5, donc le chapitre suivant, nous lisons ce verset. « Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. » Ça, c'était le monde d'Enoch. Mais il est resté fidèle parce qu'il avait marché avec Dieu pendant toute cette période et dans un milieu archi difficile. Après ce verset que je viens de lire, nous savons qu'il y avait la vie de Noé, le seul autre homme dont il est dit qu'il marchait aussi avec Dieu, et il y avait le déluge donc qui suivait pour juger donc ces hommes méchants. Alors, c'était dans un environnement mauvais, très mauvais, que l'Écriture dit qu'Enoch marchait avec Dieu. Mais aussi, il faut souligner qu'il ne marchait pas comme un reclus ou un ermite, il ne s'est pas caché du monde. Dans une grotte, comme certains des premiers chrétiens pensaient, pour s'éloigner du monde, il fallait se cacher, se mettre à l'abri, être tout seul, loin de la société mauvaise. Il a pleinement vécu sa vie dans trois domaines. D'abord, responsabilité publique. Je le dis ça parce que en tant que fils aîné à l'époque, il était un chef de clan, un patriarche qui avait une responsabilité tribale sur les enfants et d'autres qui étaient dans ces familles très étendues. Vous pensez bien que si on visait 800 ans, 900 ans, que le nombre de cousins, de frères et de sœurs encore vivants était énorme. Vous pensez que vous avez une grande famille, mais vous ne pouvez pas avoir aussi grand nombre d'anniversaires à rappeler que de cette époque-là. Donc il était chef de famille, mais chef d'un clan politiquement important, sans doute aussi. Donc il avait une responsabilité publique pendant cette marche. Deuxièmement, il avait une vie familiale personnelle. Il n'était pas un célibataire, loin de toutes les tentations du monde. Au contraire, il était dans une famille normale. Il vivait une vie familiale normale parce qu'après la naissance de Methusalem, il marche avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Donc, une grande famille pour lui aussi. Donc, vivre en famille, et vous le savez, n'est pas toujours évident non plus. On s'aime bien, c'est vrai, mais quelquefois, on se heurte contre la volonté ou du frère ou d'une sœur, et même des parents ou des enfants, et pas toujours facile. Mais lui, il a vécu dans ce même genre de milieu que nous, une famille, une grande famille, plus grande que la nôtre. Mais en plus, en troisième lieu, il avait un ministère public prophétique. Parce que non seulement il a vécu avec Dieu une vie sainte, il n'a pas fait partie de la soi-disant majorité silencieuse, ceux qui sont contre tout le mal mais qui disent rien, mais il s'est prononcé contre le mal ambiant, il a prêché ou prophétisé à sa génération. Et nous l'avons lu, l'extrait dans le livre de Jude. Il prêchait dans ce milieu méchant, il avait le courage de le faire. Alors je me demande, est-ce que moi j'ai le courage, est-ce que j'ai eu le courage quand je travaillais de témoigner, et je dois dire qu'il y a des faillites, des échecs, et je sais que ce n'est pas évident quand vous êtes, comme j'avais dit, le seul chrétien dans ce milieu-là. Une marche solitaire, difficile. Et puis, troisième allusion, référence, dans le Nouveau Testament, dans le livre ou la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, nous voyons que c'était une belle marche. Nous lisons ces paroles. Verset 5 du chapitre 11, « C'est par la foi d'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et qu'on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Car sans foi, il est impossible de faire plaisir à Dieu. Qu'est-ce qui a plu à Dieu dans cette vie ? Sa foi. Sa foi. Alors nous pouvons donc partager avec Enoch cette même foi, et même nous avons l'avantage d'une foi plus, disons, plus remplie, plus complète, parce que notre foi se repose sur la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ et la venue du Saint-Esprit. Nous avons donc beaucoup d'encouragement pour croire, pour avoir de la foi. Je vais citer un verset dans un instant, tout de suite après, dans l'Éphésiens. Mais pour introduire ce verset, j'aime bien cette description de Dietrich Bonhoeffer, qui était un homme remarquable. Vous savez qu'il est mort à 39 ans, dans un camp de concentration, juste avant la fin de la guerre. C'était un pasteur allemand qui a résisté depuis le début du nazisme. Déjà à partir de 1933, il a prêché contre Hitler et contre son antisémitisme, etc. Alors cet homme courageux a écrit beaucoup de choses, et voilà ce qu'il dit sur la foi. Qu'est-ce que la foi, ou croire ? Croire veut dire fonder sa vie sur une base en dehors de soi-même, sur une base éternelle et sainte, Jésus-Christ. Croire veut dire être captif du regard de Jésus-Christ, ne plus voir que lui, être arraché à l'esclave du moi, être libéré par Jésus-Christ. Croire veut dire agir en laissant faire le Christ. Quelle belle, par définition, belle description de la foi. Être libéré par Jésus-Christ. Et voilà ce verset que je voulais vous lire, d'Éphésiens 2, 10, qui dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Une paraphrase de ce même verset qui dit « Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher dans cette voie. » Alors le verset, ou la partie du verset qui dit « Nous sommes son ouvrage », littéralement, nous sommes son poème, ou même une traduction, une version qui dit « Nous sommes son chef-d'œuvre ». J'aime bien cela. Il y a quelques semaines, nous avons fait une visite à la Fondation Janada à Martigny. Vous avez entendu parler de ça, où il y a une exposition du célèbre peintre Paul Cézanne. Alors, ce qui arrive avec les grands peintres, des tableaux qui restent, qu'est-ce que l'on fait ? À moins d'être dans une collection privée où personne sauf quelques amis et le propriétaire puisse vous regarder, en général, on les met dans les musées, on les expose pour être vus et admirés. Nous sommes, en quelque sorte, son chef-d'œuvre. Nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Et dans une certaine mesure, c'est pareil pour nous. Nous sommes exposés au monde. Que votre lumière ainsi luise devant les hommes, dit Jésus, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient pas vous, mais votre Père qui est dans les cieux. Et Pierre dit aussi, et au milieu des païens, hein, oui, c'est notre monde, une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Quand vous voyez certains tableaux de peintres connus comme Renoir, Van Gogh ou même Cézanne, vous pourrez dire tout de suite, en voyant, sans y penser autre chose, parce que vous les reconnaissez, vous dites, ah, ça c'est un Renoir, ça c'est un Van Gogh, ça c'est un Cézanne, etc. Je me pose la question suivante. Est-ce que les gens, en me voyant vivre, disent tout de suite, ah, ça c'est un chrétien? Est-ce qu'ils le disent de vous? Ça c'est un chrétien. Je le sais, je le vois. C'est un défi, n'est-ce pas? Ou est-ce que nous cachons notre lumière sous un buisson, par crainte, par timidité, comme c'est souvent le cas? Mais n'oubliez pas que nous avons été créés pour être son chef-d'œuvre, à être vu, exposé au monde, avec tous les risques et périls, ça donne dans une telle vie. C'est donc par la foi qu'Enoch a marché avec Dieu avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Alors, pour terminer, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la vie d'Enoch? C'est que par la foi, quelles que soient les circonstances de notre vie, il est possible de marcher avec Dieu et lui plaire. Deuxième chose. Quelles que soient les tentations que Satan met sur notre chemin, il est possible d'y résister et rester fidèle à notre Dieu. Troisième chose. Quelles que soient les épreuves auxquelles nous devons faire face, il est possible de persévérer jusqu'au bout du chemin. Quatrième chose. Quelles que soient les difficultés à vivre pour Christ dans un monde si indifférent ou même hostile à notre foi, il est possible de lui rendre témoignage par notre vie et par nos paroles. Cinquième chose. Quelle que soit la corruption du monde qui nous entoure, il est possible de vivre une vie pure et sainte qui le glorifie. Et si nous marchons fidèlement avec Dieu, dans la direction que Dieu nous indique, vous savez, nous sommes certains d'arriver à la même destination qu'Enoch. Peut-être pas de la même manière, sûrement pas. Mais nous arriverons à être avec le Seigneur, si nous marchons avec lui. Car vous savez, ce qui est plus important dans un sens, que si nous marchons avec lui, il marche avec nous. Et même quand nous ne sommes pas conscients de ce qui arrive, il faut croire que Dieu est toujours présent pour nous encourager et pour nous aider. Alors soyons donc comme Enoch et marchons avec Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour les exemples de foi magnifiques dans la parole de Dieu, dans la Bible et même autour de nous. Donne-nous donc d'être encouragés, pas découragés par ces modèles. Donne-nous, Seigneur, de croire que par la foi nous pouvons marcher avec toi parce que tu as promis d'être à nos côtés, en nous-mêmes par le Saint-Esprit pour nous aider et nous encourager. Donne-nous de la persévérance, du courage, de la sainteté dans notre marche pour te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Alors, un vieux cantique que j'espère est connu, dans la toile à gloire, celui qui met en Jésus-Christ, que nous allons chanter ensemble.